l'amendement de Tots. Or, la maman de Tots était singulièrement charmante, et tout le monde à Simla connaissait Tots. La plupart des hommes lui avaient sauvé la vie un jour ou l'autre. Ils échappaient totalement au contrôle de son aïa, et mettaient journellement sa vie en péril pour découvrir ce qui arrive quand on tire la queue d'une mule de batterie. C'était le moins timide des petits mécréants. Il avait environ 6 ans, et c'est le seul bébé qui ait jamais troublé le calme auguste du suprême conseil législatif. Voici comment la chose arriva. Le chevreau favori de Tots s'échappa et prit sa course vers le haut de la montagne, de l'autre côté de la route de Bualogang. Tots à ses trousses, jusqu'à la pelouse de Vincheregol Lodge, qui s'appelait Peterhof en ce temps-là, et fit irruption dans l'enclos. Le conseil tenait justement séance, et les fenêtres étaient ouvertes à cause de la chaleur. Le lancier rouge qui se tenait sous le porche dit à Tots de s'en aller. Mais Tots connaissait personnellement le lancier rouge et la plupart des membres du conseil. En outre, il tenait solidement le chevreau par son collier et se faisait consciencieusement traîner à travers toutes les plates-bandes. « Donnez mes salams au long conseiller sahib et demandez-lui de m'aider à faire rentrer Moti, » dit Tots tout haletant. Le conseil entendit le bruit par les fenêtres ouvertes et au bout d'un instant, on put voir ce spectacle scandaleux. Un membre législatif et un lieutenant-gouverneur, en train d'aider, sous la direction immédiate d'un commandant en chef et d'un vice-roi, un petit garçon très sale, en col marin, où dégringolait une broussaille de cheveux bruns, a dompté un bico alerte et indiscipliné. Ils lui conduisirent le long de l'allée jusqu'au mail, et Tots se rentra en triomphe, et raconta à sa maman que tous les saïds conseillers l'avaient aidé à rattraper Moti. Sur quoi, sa maman fouetta Tots pour être intervenue dans l'administration de l'Empire. Mais Tots rencontra le membre législatif le jour suivant et lui dit en confidence que si le membre législatif avait jamais besoin de rattraper une chèvre, lui, Tots, l'y aiderait de tout son pouvoir. « Merci, Tots, » dit le membre législatif. Tots était l'idole de quelques 80 Jampanis et de la moitié autant de Saïs. Il s'adressait à tous en disant « Oh, frère !» Il ne lui était jamais entré en tête qu'aucun être sur Terre pût désobéir à ses ordres. Et il servait de tampon entre les serviteurs et le courroux de sa maman. Toutes les fonctions de cet intérieur avaient pour pivot Tots, que chacun adorait, depuis le Dobby jusqu'au valet de chien. Foutekan lui-même, le vilain cheminot toujours sans place de Mussouri, évitait d'encourir le déplaisir de Tots, de crainte que ses collègues ne jetassent sur lui l'œil de la défaveur. En ce temps donc, Tots était en honneur dans le pays, de Bualogang à Kota Simla, et gouvernait avec justice selon ses lumières. Naturellement, il parlait ourdou. Mais il avait appris en outre nombre de curieux petits parlers à côté, comme le koti boli des femmes, et il soutenait de graves controverses, indifféremment avec des boutiquiers ou des coulis montagnards. Il était précoce pour son âge, et la fréquentation des indigènes lui avait enseigné quelques-unes des vérités les plus amères de la vie, entre autres sa mesquinerie et sa misère. Il avait coutume, entre 2 cuillerées de soupe au lait, de débiter, avec solennité, d'austères aphorismes traduits du langage indigène en anglais, qui faisaient tressauter sa maman. Après quoi, elle prenait le ciel à témoin qu'il fallait que Tots aille en Angleterre l'été prochain. Aux jours les plus florissants du règne de Tots, la législature suprême s'occupait d'ébaucher un projet de loi pour les régions sissimalayennes, révision de l'acte alors en vigueur, moins important que le bill agraire du Punjab, mais n'en intéressant pas moins quelques centaines de milliers d'individus. Le membre législatif avait bâti, étayé, fignolé, amendé cette ordonnance, tant qu'elle en arrivait à faire le plus bel effet sur le papier. Puis, le conseil se mit en devoir de régler ce qu'il appelait les détails secondaires. Comme si jamais anglais légiférant pour indigène en avait su assez pour savoir quels sont les points de moindre ou de majeure importance au point de vue indigène dans une mesure quelconque. Où l'ordonnance triomphait, c'était sous le rapport de la sauvegarde des intérêts du tenancier. Une des clauses portait que la terre ne pourrait être affermée pour plus de 5 années consécutives. Parce qu'un fermier, lié par un bail de 20 ans par exemple, ne manquerait point d'être pressuré jusqu'à cette dernière goutte de sueur. Endiguer un flot permanent de cultivateurs libres dans la région sissi-malayenne, telle était l'idée fondamentale du projet. Ethnologiquement et politiquement, elle ne laissait rien à désirer. Son seul défaut, c'est qu'elle était fausse d'un bout à l'autre. La vie d'un indigène dans l'Inde implique la vie de son fils. Partant, vous ne pouvez faire des lois pour une seule génération à la fois. Il faut, au point de vue indigène, tenir compte de la suivante. Chose curieuse, il arrive que l'indigène, et plus particulièrement dans l'Inde du Nord, se mette à détester un excès de protection contre lui-même. Il y avait une fois un village naga où l'on vivait de mules du commissariat mortes et enterrées. Mais cela, c'est une autre histoire. Pour maintes raisons que j'expliquerai plus tard, les intéressés n'approuvaient pas le bill. Le membre indigène du conseil en savait autant sur les habitants du Punjab que ceux de Caring Cross. Il avait dit à Calcutta que le bill concordait pleinement avec les désirs de cette nombreuse et importante corporation, les cultivateurs, et ainsi de suite. Les données du membre législatif sur les indigènes se bornaient à des expériences de Durbaros, où l'on ne parle qu'anglais, et ses rapports avec ses propres chaprassis écarlates. Les districts sissamalayens ne concernaient personne en particulier. Les députés commissaires étaient bien trop surmenés pour faire de représentations, et la mesure ne regardait que les petits tenanciers. Malgré quoi, le membre législatif priait Dieu de le garder d'une erreur commise, car c'était un homme d'une conscience scrupuleuse jusqu'à la nervosité. Il ignorait que nul ne peut se targuer de connaître la pensée intime des indigènes s'il ne se mêle à eux, tout verni dépouillé. Et encore, pas toujours. Mais il s'agit au mieux de ses lumières. Et la mesure revint devant le Conseil suprême pour y recevoir les retouches finales, tandis que Todd se patrouillait à cheval tous les matins à travers le Bura, bazar de Simla, et jouait avec le singe de l'île Tamul, le Bunya, et recueillait comme un enfant peut faire tous les lambeaux de conversation à propos de ce nouveau caprice du Lat Sahib. Un jour, on donnait un grand dîner chez la maman de Todd, et le membre législatif y assistait. Todd était au lit. Mais il se tint éveillé jusqu'à ce qu'il entendît les éclats de rire des hommes à l'heure du café. Alors, il s'évada pieds nus, sa petite robe de chambre en flanelle rouge sur son costume de nuit, et alla se réfugier aux côtés de son père, sachant bien qu'on ne le renverrait pas. « Les voilà bien, les misères de la famille !» dit le père de Tots en donnant à Tots trois prunes, de l'eau dans un verre où il y avait eu du claret, et en lui disant de se tenir tranquille. Tots se mit à sucer lentement les prunes, sachant qu'il lui faudrait partir lorsqu'elle serait finie, et à boire son eau rose à petite gorgée comme un homme du monde, tout en écoutant la conversation. Tout à coup, le membre législatif qui causait boutique avec le chef du département parla du bill sous son nom officiel, la révision de l'acte des districts sissi-malayens. Tots ne retint que le mot indigène et, élevant sa petite voix, dit « Oh, je sais tout sur ça! Est-ce qu'il est déjà maramuted, sahib conseiller ?» « Combien ?» dit le membre législatif. « Mahamuten, raccommodé, fait, tic, vous savez, arrangé pour faire plaisir à dit Tamul. » Le membre législatif quitta son siège et vint s'installer auprès de Tots. « Qu'est-ce que vous savez là-dessus, mon petit bonhomme » dit-il. « Je ne suis pas un petit bonhomme, je suis Tots, et je sais tout sur ça. Dit Tamul, et Kogalal, et Amirnath, et... Oh, des lacs !» D'amis m'en parlent dans les bazars et quand je cause avec eux. Oh, ils en parlent, vraiment? Que disent-ils, Tots? Tots ramassa ses pieds sous sa robe de chambre en flanelle rouge et dit « Il faut que je réfléchisse. » Le membre législatif attendit avec patience. Puis, Tots, sur un ton de compassion infini, « Vous ne parlez pas comme moi, n'est-ce pas, sahib conseiller? Non, j'ai honte de l'avouer. » répondit le membre législatif. Très bien, dit Tots. Il faut que je réfléchisse en anglais. Il passa une minute à mettre ses idées en ordre et commença très lentement en traduisant mentalement du parler indigène en anglais, comme font beaucoup d'enfants anglo-indiens. Il faut vous rappeler que le membre législatif l'aidait de ses questions quand il s'arrêtait, car Tots n'eût pas suffi à l'essor d'éloquence soutenue qu'on va lire. Dit Tamul dit « C'est un bavardage d'enfants et l'ouvrage de plusieurs fous. Mais ce n'est pas moi qui pense que vous êtes un fou, sahib conseiller, » Tots se s'empressa-t-il d'ajouter. « Vous m'avez rattrapé ma chèvre. Voilà ce que dit Tamoldi. Je ne suis pas un fou, et pourquoi le circard dirait-il que je suis un enfant? Je peux voir si la terre est bonne et si le maître est bon. Si je suis un fou, que le mal en retombe sur ma tête. Pour 5 années, je prends ma terre pour laquelle j'ai mis de l'argent de côté, et je prends une femme aussi, et il naît un petit garçon. Dit Tamel a maintenant une fille, mais il a dit pour sûr qu'il aura un garçon bientôt. Et il dit, au bout de 5 ans, grâce à ce nouveau bundlebust, il faut m'en aller. Si je ne m'en vais pas, il faut mettre de nouveaux cachets et de timbres de ta queue sur les papiers, peut-être au milieu de la moisson. Et si c'est sagesse d'aller devant la justice, y aller 2 fois. C'est Yahanoum. C'est tout à fait vrai, expliqua Tots avec gravité. Tous mes amis le disent. Et dit Tamel dit, toujours de nouveaux takus et de nouveau de l'argent aux vakils et aux chaprassis et aux gens de loi tous les 5 ans, ou bien le propriétaire me fait partir. Pourquoi désirerais-je m'en aller? Suis-je un fou? Si je suis un fou et ne sais pas, après 40 ans, reconnaître la bonne terre quand je la vois que je meurs. Mais si le nouveau bundlebust arrange la chose pour 15 ans, ça c'est bien et c'est sage. Mon petit garçon est alors un homme et moi je suis brûlé. Et il prend cette terre ou une autre, et ne paye qu'une fois pour les timbres de takou sur les papiers. Et puis son petit garçon est né, et au bout de 15 ans, c'est un homme à son tour. Mais où est le profit avec 5 ans et de nouveaux papiers? Rien que Dick, ennui, Dick. Nous ne sommes pas des jeunes gens, nous autres, qui prenons ces terres, mais de vieilles gens. Pas déjà, mais les travailleurs avec un peu d'argent. Et pour 15 ans, nous aurions la paix. Nous ne sommes pas des enfants pour que les circards nous traitent ainsi. Ici, Tots s'arrêta court, car toute la table écoutait. Le membre légal dit à Tots, « Est-ce tout ?»« Tout ce que je peux me rappeler, » dit Tots. « Mais ce qu'il faut voir, c'est le grand sage de Ditamel. Il ressemble tout à fait à un sahib conseiller. »« Tots, allez vous coucher, » dit son père. Tots se ramassa à la traîne de sa robe de chambre et se retira. Le membre législatif abattit avec fracas son poing sur la table. « Par Jupiter !» dit le membre législatif. Je crois que l'enfant a raison. La courte tenure, voilà le point faible. Il partit de bonne heure, réfléchissant à ce que Tots avait dit. Or, il était évidemment impossible à un membre légal d'aller jouer avec le singe d'Abonia pour se rendre compte. Mais il fit mieux. Il s'informa, sans perdre de vue ce fait que le véritable indigène, pas l'hybride, la mule élevée à l'université, est aussi timide qu'un poulain, et petit à petit, il amena par douceur et persuasion quelques-uns des plus directement intéressés à exposer leurs idées. Elles cadraient fort étroitement avec la déposition de Tots. C'est ainsi que le bill fut amendé dans ce sens, et le membre législatif se sentit envahi d'un soupçon, et douta que les membres indigènes représentassent beaucoup plus que les ordres qu'ils portent sur leur poitrine. Mais il chassa cette pensée comme peu libérale. C'était un libéral dans toute la force du terme. Au bout de quelque temps, la nouvelle se répandit dans les bazars que Tots avait fait réformer la clause du bill concernant la tenure. Et si la maman de Tots n'était pas intervenue, Tots se serait rendu malade avec le contenu des corbeilles de fruits, de pistaches, de raisins de Kaboul et d'amandes qui encombraient la véranda. Jusqu'à son départ pour l'Angleterre, Tots fut tenu dans l'estime populaire à quelques degrés au-dessus du vice-roi, mais du diable aussi dans sa petite tête, Tots n'y comprit jamais rien. Dans la boîte à papier particulière du membre législatif, j'ai encore le brouillon de l'acte révisé des districts sismalayens, et en face de la clause 22, écrit au crayon bleu et signé par le membre législatif, on lit ces mots « Amendement de Tots ».